Radioscoop.com. À tout de suite.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 15h à Washington, 19h en temps universel, 20h à Kinshasa. On pointe sur l'actualité avec Abdelrahman Diagne. Le président français Emmanuel Macron réunit mardi une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales pour tenter de trouver des solutions inédites à la crise de financement en Afrique. La réunion sera précédée demain lundi d'une conférence de soutien à la transition au Soudan. L'idée de ce sommet sur le financement des économies africaines a germé à l'automne quand le Fonds monétaire international a calculé que l'Afrique risquait de se heurter à un déficit de financement de 290 milliards de dollars d'ici 2023. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a nommé un nouveau gouvernement de 36 membres, dont 8 femmes. Parmi les 11 personnalités qui font leur entrée dans ce gouvernement figure Denis Christelle Sassou Nguesso, 46 ans, fils du président et qui prend le portefeuille nouvellement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. L'opposant Honoré Saïd fait aussi son entrée dans le gouvernement. Il occupe le poste de ministre de l'énergie et de l'hydraulique. L'armée soudanaise a remis au procureur général les résultats d'une enquête sur le meurtre de 2 manifestants lors d'un récent rassemblement qui réclamait justice pour les victimes des violences commises à l'encontre de protestataires en 2019. Ces résultats comprennent une liste de soldats soupçonnés d'être impliqués dans les événements de mardi, ainsi qu'un ordre de lever leur immunité. Il faut dire que plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés ce mardi ou mardi dernier devant le quartier général de l'armée pour marquer les 2 ans de la dispersion violente d'un sit-in du mouvement de contestation qui réclamait le départ de l'ancien président Omar el-Béchir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à une cessation immédiate des affrontements au Proche-Orient. Pour lui, ces violences risquent de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable. Déclaration faite à l'ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'ambassadeur israélien aux États-Unis et auprès de l'ONU, Gilad Erdan accuse le mouvement palestinien Hamas d'avoir prémédité une guerre avec Israël et de vouloir s'emparer du pouvoir en Cisjordanie. De son côté, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki met en cause Israël qu'il accuse de crime de guerre devant le Conseil de sécurité en dénonçant l'agression d'Israël contre le peuple palestinien et ses lieux saints. L'armée israélienne, qui par ailleurs a bombardé sans relâche ce dimanche la bande de Gaza, tuant au moins 42 Palestiniens, dont des enfants, ciblant aussi la maison d'un dirigeant du mouvement islamiste Hamas au 7e jour d'un conflit d'une intensité jamais vue selon la Croix-Rouge. Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas au pouvoir, ont de leur côté tiré plus de 3000 roquettes vers Israël depuis le 10 mai. Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu estime que l'immeuble abritant des médias à Gaza, détruit hier samedi par une frappe israélienne, était une cible parfaitement légitime. Selon lui, le bâtiment qui accueillait notamment les locaux de l'agence américaine AP et la télévision Al Jazeera abritait également un bureau du renseignement pour l'organisation terroriste palestinienne en référence au Hamas et qui prépare et organise des attaques terroristes contre des civils israéliens. Le pape François a lancé ce dimanche des appels à la paix en Birmanie et au Proche-Orient, mettant notamment en garde contre la spirale de la mort et de destruction dans le conflit israélo-palestinien. Au cours d'une messe spéciale pour la Birmanie, célébrée dans la matinée, le pape a réitéré ses appels à la fin de la violence en Birmanie au 4e mois de la répression sanglante de la junte contre les civils. Enfin, reprise des combats en Afghanistan ce dimanche entre forces gouvernementales et talibans au terme de la trêve décrétée pour la fête musulmane de l'Aïd. Des accrochages ont été signalés dans le sud du pays, précisément à Helmand. Fin de ce bulletin d'information. Restez en compagnie du programme de VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Ce soir nous parlons du sens et du rôle du pardon. Eric Manigatiba, en votre compagnie, Lionel Nanyagaima, assure la mise en monde. Le Larousse propose la définition du mot ou du verbe pardonner. Primo, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte et ne pas lui en tenir rigueur. Secondo, c'est le fait de ne pas sanctionner une faute ou un manquement à un règlement. Tertio, c'est supporter, tolérer, excuser tel comportement. Le pardon dit donc de partie celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée. Cette notion de pardonner peut également concerner l'individu lui-même quand il n'arrive pas à se pardonner quelque chose. Comment alors peut-on parvenir à reconnaître ses torts, accorder plus d'attention à l'autre qu'à soi-même en vue de préserver la relation? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Ce soir, nous recevons deux invités, Annie-Claude Frenette, depuis le Québec au Canada. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Et vous êtes membre d'une église évangélique, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Le deuxième invité, c'est le pasteur Aimé Kazadi, également depuis le sol canadien. Bonsoir, pasteur.
Bonsoir.
Vous êtes de quelle église?
Du ministère Parole de Christ, c'est une vraie église naissante.
Merci et bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions. Annie-Claude, le pardon est très important dans le christianisme, mais c'est une démarche parfois ou souvent difficile. Pourquoi?
La nature humaine, quand elle est agressée, va être portée à agresser en retour. C'est comment que l'humain est fait automatiquement. On est prompt à répondre à l'offense. Donc, le pardon est difficile parce que c'est contraire à notre nature humaine, tout simplement. C'est de prendre l'offense puis d'envoyer de l'amour. Alors, c'est très difficile quand on se fait agresser de donner de l'amour. Mais c'est la façon dont Jésus veut qu'on agisse. J'ai trouvé dernièrement quelque chose d'intéressant que Charles Spurgeon disait. Il disait que rendre de mal à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est agir comme ta santé. D'agresser quelqu'un gratuitement, c'est d'être méchant. Rendre le mal par le mal, c'est agir comme les animaux. Rendre le bien pour le bien, c'est agir comme les hommes, parce que les hommes vont rendre le bien facilement à celui qui rend le bien, parce que c'est un pour un dent pour dent, il m'a fait du bien, j'ai fait du bien. Mais rendre le bien à ceux qui nous font du mal, c'est agir comme un enfant de Dieu, c'est agir comme Jésus a agi quand il est venu sur terre. Donc oui, c'est difficile parce que c'est tout simplement pas dans notre nature humaine de faire ça. Ce qui m'amène à dire que pour moi, je vois le pardon d'une façon vraiment divine. Voilà.
Pasteur Kazadi, au-delà de cette définition que nous propose le dictionnaire Larousse, comment vous appréhendez, vous, le pardon?
Pour moi, j'appréhende le pardon vraiment dans la foi chrétienne, comme nous parlons. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de la foi chrétienne, il n'y a pas de pardon. Il y a des pardons parce que dans chaque homme, il y a une connaissance du bien et du mal. Donc, les autres aussi accordent du pardon. Mais vraiment, c'est relié à la foi chrétienne parce que dans la foi chrétienne, la personne en qui nous avons foi, ça veut dire Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit, il nous a même montré comment prier, il y a une phrase dans cette prière-là dans laquelle il dit « Pardonne-nous ». Lorsque vous priez, dites « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ». Donc, ça veut dire que le pardon est vraiment un élément parmi les éléments les plus importants dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que lui-même nous a pardonné pour qu'il nous accepte comme enfants de Dieu. Il a commencé par nous pardonner. Donc, c'est parmi les éléments de base. Donc, je peux dire que dans la vie chrétienne, on ne peut pas avoir une vie chrétienne sans pardon parce que nous-mêmes, au départ, nous avons été pardonnés.
Lorsque vous prêchez sur le pardon
au niveau de l'Église. Est-ce que quelle est l'approche que vous utilisez?
Vous savez que lorsqu'on parle du pardon et lorsqu'on prêche, la prédication est toujours en lien avec la parole de Dieu. Donc on rentre toujours dans la Bible pour essayer de trouver quels sont tous les exemples qu'on a donnés des gens qui se sont pardonnés, comment ça aboutit, et des gens qui ne se sont pas pardonnés, comment ça aboutit. Mais nous avons l'occasion d'avoir un très bel exemple donné par Jésus lui-même dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Jésus explique clairement comment les gens doivent agir pour se pardonner. Lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, nous appelons ça souvent le règlement des conflits. Comment se règle un conflit? Oui, au travail, on nous montre une autre manière. Mais dans les livres de Matthieu, Jésus explique clairement. Il dit ceci, je ne vais pas utiliser peut-être les mêmes mots, lorsque un frère ou une personne a un problème contre toi, ça veut dire que c'est toi qui réalises qu'il y a un problème. Donc l'offensé a l'obligation de régler ces problèmes-là. L'offensé, je ne dis pas que c'est l'offense, l'offenseur de foi ne connaît rien. C'est l'offensé qui a l'obligation de résoudre les problèmes. Il ira voir, parce qu'il est offensé, voir la personne et lui demander comment ça se passe. J'ai été offensé, tu as mal parlé ou tu as pris quelque chose, tu as déplacé. Et c'est au décours de ça, s'ils se comprennent, le pardon est accordé, ils se comprennent, c'est bon. Mais si les gens ne se comprennent pas, dans la démarche biblique, toujours dans l'exemple de Jésus, on va en parler à une deuxième personne. Donc il fait comme un trio à trois. Et si ça ne marche toujours pas, on va amener le problème dans la communauté ou à l'église. Et si ça ne marche pas à ces moments-là, c'est vraiment difficile. Mais les autres exemples du pardon sont aussi donnés. On voit, il y a par exemple la parabole où Jésus explique clairement que lorsqu'on est pardonné, on doit pardonner les autres parce que lorsqu'on pardonne, on devient comme lui.
Est-ce que pardonner veut dire que vous excusez les actions de cette personne?
C'est des questions qui reviennent souvent. Pardonner, ça veut dire premièrement, comme Sylvie, je pense, l'avait dit, ça veut dire rendre le bien indépendamment du mal qui est fait. Donc ça ne veut pas dire que ça fait disparaître le mal, mais ça veut dire tout simplement rendre le bien pour le mal qui est fait. Je vois encore l'image de ces jeunes garçons qui a eu à perdre son frère parce que un corps policier a tiré sur le frère par mégarde. Et ce garçon-là dire à la fin à la policière lors du jugement que je te pardonne. Ça dépasse l'entendement et la compréhension humaine. Comment il m'a fait autant de mal, il faut qu'il subisse. Ça, c'est ce qui est naturel. Mais le mal est là, le mal est fait. Le mal est déjà là. Le pardon ne fait pas revenir certaines conséquences, mais le pardon libère les deux personnes.
Il est mis au service du bien spirituel de la personne qu'on venait de le dire. Annie-Claude, est-ce que vous auriez un témoignage à nous partager?
Oui, moi j'ai vécu personnellement de la violence conjugale à tous les niveaux. J'ai été en amour avec un homme, puis j'ai subi la violence physique, j'ai subi la violence verbale, la violence monétaire, la violence sexuelle et la violence émotionnelle, ce qui détruit un être complètement. Puis c'est vraiment Dieu qui m'a relevé, qui a appris à pardonner pour me libérer. Puis aujourd'hui, je vais bien, puis j'aide les gens qui sont dans la situation dans laquelle j'ai vécu, puis il y a des personnes. Je pourrais dire les femmes plus, là, parce que je travaille plus avec les femmes, mais il y a des femmes qui s'en remettent juste jamais. Puis moi, j'ai pris, j'ai passé 2 ans dans ma chambre à coucher, à pleurer avec Dieu. Puis Dieu, il m'a vraiment restauré, il m'a guéri, il m'a appris à pardonner, il m'a appris à gérer ma colère. C'est vraiment fait un miracle en moi, puis je sais que c'est le pardon qui m'a libérée, c'est cheminer avec Dieu qui a fait en sorte, parce que le pardon, c'est un choix. On peut pas suivre nos sentiments parce que si on suit nos sentiments, on ne pardonnerait jamais. Il faut faire le choix de pardonner. Puis après ça, le cheminement se fait, puis la libération s'enclenche, la restauration aussi ensuite. Puis on Donc moi, je suis super reconnaissante parce que j'ai vécu le pardon pour une situation qui était très grave, qui est honnêtement impardonnable dans un sens, au sens humain. Mais j'ai pardonné et puis à quel point que Dieu a travaillé en moi, j'ai même demandé pardon à mon agresseur parce que pendant que j'ai vécu ces choses-là, moi, ma réaction était pas correcte. Puis, mettons, je devais pas, c'est comme il m'a trompé. Moi, j'ai crié sur lui. Mais en fait, une femme querelleuse, c'est pas biblique non plus. Fait que Dieu m'a transformée au point que moi, j'ai demandé pardon aussi pour les actes que moi, j'ai causés contre lui. T'sais? Donc, c'est vraiment puissant le pardon, tout ce que ça fait, parce qu'aujourd'hui, je suis régénérée, je suis une nouvelle personne, Dieu m'a restaurée complètement, je marche la tête haute, j'ai pas de peur, je suis bien. T'sais, j'ai pas de séquelles à tout ça. Contrairement à des centaines de femmes qui vivent encore dans les cauchemars, dans la peur, dans... C'est vraiment miraculeux, en fait, le pardon que tu peux faire dans une vie.
Est-ce que vous avez dû oublier ces incidents qui se sont produits, ce mal qui vous a blessé?
Non, je n'ai pas oublié. Je pourrais raconter mon histoire. En fait, je raconte régulièrement mon histoire plus en détail à des femmes en détresse. Puis, quand tu guéris complètement, c'est comme si tu étais à côté. C'est comme si tu racontais un peu l'histoire de quelqu'un d'autre. Je subis plus la douleur que j'ai vécue à cette époque-là. Je suis complètement libérée de toutes les offenses qui ont été commises contre moi. C'est au début, tu en parles un peu puis tu pleures. Mais à un moment donné, quand ta restauration elle est complète à cause que tu as pardonné à la personne réellement, c'est complètement différent. Fait que moi, je vais raconter mon témoignage avec la tête haute. Il n'y a plus de honte. J'ai plus de souffrance. J'ai plus de douleur. J'ai plus de cauchemar. J'ai plus de séquelles reliées à toute cette souffrance-là. Mais c'est un cheminement. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Puis il y a des choses. Puis ils disent d'être vite au pardon parce que dans le fond, quand tu es dans l'amertume, ça déborde par en dedans. Ça donne des maladies. Des fois, tu sais, il y a des personnes qui développent des maladies parce qu'ils vivent complètement dans l'amertume. Mais quand tu pardonnes, tu te libères. Puis cette personne-là, de toute façon, qu'elle demande pardon ou pas, elle continue à vivre sa vie, là. Fait que c'est vraiment important de le faire pour soi. Puis la raison pour laquelle que moi je lui ai demandé pardon, c'était pour me libérer, parce que Dieu nous pardonne seulement si on pardonne aussi. Puis on doit demander pardon quand on offense aussi, c'est important. Dieu nous parle à travers ça, il se révèle à nous, puis il va nous le dire. Il y a ça, c'est ça qui fonctionne pas. Donc c'est super important pour une restauration complète de savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, mais de aussi demander pardon à qui on peut penser avoir offensé, parce que c'est pas tout le monde qui va aller vers l'offenseur pour lui dire. Puis Dieu, il dit bien dans la parole, dans Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et c'est super important.
Et est-ce que vous avez dit à la personne que vous lui avez pardonné?
Bien sûr. Oh oui. Moi, j'ai dit à la personne que je l'avais pardonné. Puis je lui ai demandé pardon aussi de comment que moi j'avais réagi à ces affaires, à ces offenses. Parce que pendant les années que j'ai subi les offenses, mes réactions n'étaient pas que Jésus aurait fait. Alors moi aussi j'ai demandé pardon parce que j'ai été querelleuse à travers ça, en fait, la majorité du temps. Quand t'es toujours agressé, tu deviens un peu tu sembles être folle, tu sais. La personne, elle te manipule, elle joue dans ta tête, elle joue avec toi, elle joue à tous les niveaux. Quand tu l'aimes, mais t'es là, t'es dans un combat, tu peux partir, mais t'as peur, il y a des menaces, c'est très, très, très malsain. Donc, tu réagis tout ça de façon qui sont vraiment pas bien non plus. J'ai dû demander pardon à ma fille aussi, parce que ma fille, j'ai crié sur elle sans aucune raison, parce que j'allais tellement pas bien. De là, pourquoi tantôt je disais quand t'es agressé, t'agresses. Fait que de pardonner, ça te libère. C'est ma fille, elle a plus la même maman, là. On recule 5 ans en arrière, puis c'est pas la même personne. Moi, le pardon m'a complètement transformée. La restauration de Dieu dans ma vie m'a complètement transformée.
Et religion, on parle du pardon. Eric Manelakiza avec vous, Lionel Lunabeagaïba sur la mise en onde. Pasteur Kazadi, est-ce qu'on est obligé de dire à la personne que vous la pardonnez?
Autant que possible, il faut le faire. On a suivi les témoignages, ça permet la guérison de la personne qui demande pardon et qui pardonne. Comme elle a bien dit, on se pardonne soi-même, c'est une étape. On pardonne l'autrui, c'est encore une étape. Et le dire, c'est ça qui est difficile par rapport à l'ego humain, par rapport à la nature humaine. Dire, aller demander pardon est toujours difficile. Je réfléchissais même en disant, je vais dire cette phrase-ci, les bonnes choses les plus difficiles à faire pour l'homme procurent un bien-être profond et durable et changent de vie. L'exemple que je vous donnerai, c'est l'exemple d'une personne qui n'est pas chrétienne, mais qui est une icône dans le monde. Nelson Mandela avait, d'après les hommes, toutes les raisons de ne pardonner ni son geôlier, ni le président, ni personne d'autre. D'ailleurs, dans son camp et dans son parti, on attendait de lui que lorsqu'il va prendre le pouvoir, qu'il rende l'appareil. Mais Nelson Mandela a dit non, je pardonne. Ça, ça a sauvé beaucoup de vies et ça fait beaucoup de bien à son pays et à plusieurs personnes à travers le monde. On ne peut pas pardonner et rester dans son coin. Les témoignages sont éloquents. Lorsqu'on en parle, lorsqu'on dit à la personne que j'étais pardonné, ça permet à soi-même d'être libéré. On n'est plus esclave des pensées fausses, on n'est plus esclave du mal. Et ça libère aussi d'autres personnes. J'aime ce que un frère a dit, comme exemple, un jour on discutait, il a dit ceci, ne pas pardonner, c'est comme quelqu'un qui prend du poison, mais pour que son ennemi meure. Ce n'est pas possible. Tu prends du poison pour que l'autre meure. Non, le poison, si tu veux qu'il meure, tu lui donnes du poison. Mais ne pas pardonner, ça correspond à ça. On ne pardonne pas, ça nous ronge, et après, on subit les conséquences de ne pas pardonner. Mais lorsqu'on pardonne, comme le témoignage qu'on a suivi, après on commence à vivre l'histoire comme une histoire à côté et que nous étions juste en observation en train de voir ça. Dire que c'est facile, non, mais dire que c'est un choix et une décision, la meilleure des décisions, je dirais oui.
Claude, pour pouvoir arriver à cette étape du pardon, combien de temps ça vous a pris?
Ça n'a pas été long de prendre le choix de pardonner parce que, évidemment, je suis chrétienne et je connais ma Bible. Donc, je savais que je devais le faire. Donc, de prendre le choix de pardonner, ça a été quand même assez rapidement. Quand je suis sortie de la relation, j'ai pardonné et du coup, presto, mais je vous dirais que ma restauration complète en Dieu, ça a pris un bon 2 ans. Mon but dans la vie, c'est de vivre pour Dieu parce qu'il est mort pour moi. Donc, c'est d'aimer et servir mon prochain, de proclamer l'évangile de Dieu partout, avec les chaussures pour elle à mes pieds. Donc, avant d'être capable de servir Dieu, d'être pleinement bien pour le faire, ça m'a pris vraiment 2 ans. 2 ans que j'ai été dans ma chambre à coucher avec Dieu, ma Bible, à prier, pleurer, lire ma Bible, puis ça a pris 2 ans le cheminement avant que vraiment je puisse dire ça va bien. Mais le choix de pardonner, c'est fait à l'instant où est-ce que je suis sortie de cette relation-là.
Lorsque vous avez décidé de pardonner, est-ce que pour vous, tout est parfait à ce moment-là? Il n'y a plus rien à résoudre dans votre relation, c'est ça?
En fait, plus ou moins, parce que quand j'ai pris la décision de pardonner, c'est parce que j'ai pardonné plusieurs fois pendant la relation, en espérant que la personne change, mais la personne ne s'est fait pas le choix de changer, ne demande pas à l'Esprit Saint de le transformer, ça ne se fera pas. Il faut vraiment vouloir dans la vie cheminer avec Dieu pour cheminer avec Dieu. Donc, j'avais déjà pardonné à plusieurs reprises, j'ai déjà essayé, je l'ai évangélisé beaucoup, énormément, parce que j'espérais beaucoup. Puis à un moment donné, moi, je devais quitter la relation parce que la personne ne changeait pas, puis c'était redondant, tout recommençait toujours et encore. Ça se calmait un peu, puis ça recommençait, ça se calmait un peu, ça recommençait. Donc, à un moment donné, moi, j'ai pris la décision de quitter la relation parce que, tu sais, quand tu cherches un mari, tu cherches à honorer Dieu. Parce que le mariage pour l'Église, c'est vraiment comme Dieu, c'est Dieu. Nous sommes son épouse, l'Église est son épouse. Donc, dans un mariage, l'homme représente Dieu. Il doit aimer sa femme comme Dieu aime l'Église. Et la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église doit se soumettre à Dieu. Donc, c'est comme une image. Le mariage sur terre, c'est comme une image de la relation de Dieu avec son Église. L'homme que je fréquentais, finalement, n'était pas chrétien. Au début, quand j'ai connu, il disait qu'il était chrétien, mais avec le temps, les fruits, puis tout ce que j'ai vécu avec lui, j'ai compris que pas à le juger, comme Dieu va nous juger un jour, mais avec le bon jugement que Dieu m'a donné, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de fruits. Donc, j'ai décidé de quitter la relation parce que je ne pouvais pas me marier avec un homme avec qui je ne pouvais pas honorer Dieu. Ce n'était pas une relation qui honorait Dieu, c'était toute chose qu'on aurait dû, cette relation-là. Donc, moi, j'ai fait le choix parce que, dans le fond, plus que j'ai eu ma Bible, plus que j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, plus que j'ai compris c'était quoi le plan de Dieu pour ma vie, à un moment donné, le choix s'est fait tout seul. T'sais. Ça a été difficile. J'ai essayé de laisser cette personne-là à des centaines de reprises. Puis j'y arrivais pas jusqu'à temps que j'aie la force de le faire comme il faut. Jusqu'à temps que Dieu m'accompagne et me donne la force et les outils nécessaires pour le faire.
Pasteur Kazadi, on parle d'un mariage pardonné ne veut pas dire que vous devez garder cette personne dans votre vie.
Ce que je dirais, c'est que dans un monde idéal, dans les conditions idéales, lorsqu'on pardonne, on s'attend à tout ce qui peut arriver. Parce que la personne qui pardonne ne s'attend pas nécessairement à des conditions de l'autre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque Jésus parlait du pardon, il y a un de ses disciples qui a compris rapidement en disant « Mais tu nous dis de pardonner ». Il s'est rapproché directement et il a demandé à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il me fait du mal ?» Et Jésus lui a répondu d'une manière très éloquente en disant que tu vas le pardonner 70 fois, 7 fois. Donc si tu prends 70 fois 7, ça fait comme 490. Si on y va by the book en disant on suit le livre comme ça, à 491, je ne veux plus pardonner, mais il faut garder pour la même chose 490 fois. C'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il faut pardonner toujours. Maintenant, les autres conséquences du pardon, on est incapable de les déterminer par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que moi, je peux pardonner, mais la personne à qui je pardonne n'est pas réceptive. Ça, c'est pas, ce n'est plus au niveau de mon contrôle. Moi, je peux pardonner et ma vie reste en danger. Je donne un exemple, on est en train de parler de violence conjugale, s'il y avait des menaces de mort avec armes, tu pardonnes, naturellement tu ne resterais pas parce que tu sais qu'un jour à l'autre, il peut y avoir meurtre par exemple, je suis allé dans un exemple extrême. Donc le pardon ne se fait pas par rapport à la réaction de l'autre. Donc la personne qui présente le pardon parce que elle a été aussi pardonnée par Christ. Elle présente vraiment le pardon. Le reste qui suit, c'est de prier et d'attendre que les dieux compris, le Christ lui-même, fasse aussi de même chez l'autre personne à qui on a pardonné. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le pardon est, en réalité, le pardon ne vient que si la personne est vraiment née de nouveau, suit Christ, suit le principe de Christ, la personne va accorder le pardon et le reste va suivre. Et le pardon, lorsqu'il est accordé dans ces contextes-là aux choses impossibles, le pardon est contagieux, vraiment contagieux. Contagieux pour la personne, autour de la personne et surtout la personne qui a reçu le pardon. Beaucoup de témoignages des gens qui ont reçu le pardon, ils sont juste bouleversés. Ils ne comprennent pas comment leur acte peut amener quelqu'un à leur demander pardon.
Est-ce que c'est un acte que vous devez poser pour d'autres personnes ou simplement parce qu'on vous le demande?
Non. La vie chrétienne est basée sur la foi en Jésus et Jésus est notre modèle. Le fait qu'il est notre modèle et que lui, c'est tout ce qu'il a fait durant sa vie terrestre, pardonner, et il nous a recommandé de pardonner, on le fait par amour. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment par amour.
Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des religions. Merci Annie-Claude Frenette pour votre témoignage sur le pardon. Merci Pasteur Aimé Kazadi, vous l'avez bien dit, si on ne pardonne pas, on tombe dans la douleur, la haine et la dépression. Merci de votre contribution.
Moi qui vous remercie.
Merci à Lionel Lunanila Garima qui a assuré la mise en onde. Eric Mandelakiza était avec vous. Merci également à tous nos auditeurs partout en Afrique. Nous vous retrouvons la prochaine fois. Au revoir.